Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicants 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Raphaël Krivine, qui est directeur relations clients chez AXA Bank. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Donc c'est un plaisir de t'accueillir à l'Entertainment Lab. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton activité et comment tu es arrivé chez AXA Bank ?
Oui, directeur de la relation client d'AXA Bank. J'aurais envie de dire, mon job, c'est de faire en sorte que tous les matins, nos conseillers qui gèrent chaque jour des milliers de contacts en provenant des clients retail d'AXA Bank, soient heureux de venir au bureau parce que le sourire et la bonne humeur, ça s'entend quand tu parles au téléphone. Et voilà, c'est pour dire que c'est l'essence de mon job. Mais directeur de la relation client, en fait, ça consiste contribuer à avoir un haut niveau de satisfaction. Tu sais que l'outil de mesure, c'est le fameux NPS, Net Promoter Score, et la direction client y contribue parce que on travaille beaucoup sur la qualité des réponses qu'on peut apporter. On apporte des solutions aux clients qui nous contactent soit par téléphone, soit tout simplement par la messagerie de notre site ou de notre appli.
Parfait. Alors pour mieux te connaître, c'est un peu les grandes lignes de ta trajectoire avant d'en arriver à ce poste.
Ouais.
Qu'est-ce qui a un peu sous-tendu ton parcours ?
Alors moi, là, en fait, je suis un vétéran, on pourrait dire, de la banque à distance pour les pour les particuliers, et j'ai toujours oscillé entre des challenges de lancement de nouvelles activités, on peut revenir, et puis le pilotage, le management d'équipes en contact de relations clients. Donc quand on parle de relations clients à distance, eh bien c'est à la fois la composante digitale, on parle maintenant, tu sais, de self-care, à savoir la capacité des clients à faire eux-mêmes leurs opérations. Aujourd'hui, les virements sont effectués au moins à 97% par les clients eux-mêmes. Donc, c'est le digital. Et puis, quand le client ne peut plus faire tout seul,
il y a
le conseiller qui est là. Et c'est ce que je fais en ce moment. Donc, j'ai oscillé entre ces deux métiers. Et j'ai travaillé chez plusieurs grands acteurs de la place. Donc, j'ai bossé dans des banques classiques comme le Crédit du Nord, où j'ai même développé des services Minitel, tu vois, au siècle dernier.
Ah oui.
Et puis, j'ai lancé Boursorama, quand ça s'appelait encore Fimatex. J'en étais le premier responsable marketing. J'ai lancé la première offre d'assurance vie sur Internet pour AXA. J'ai travaillé beaucoup dans la bourse en ligne. Et puis, dans le domaine du management, j'ai piloté le service client de la banque hollandaise ING, ça s'appelait ING Direct, et c'est en train de s'affermer à la fin de l'année dernière. Et puis, depuis 2016, je suis en charge de la relation client chez AXA Bank, filiale d'AXA.
Super, c'est très intéressant comme sujet autour de la relation client. Donc, combien de conseillers chez AXA Bank aujourd'hui, à peu près ?
C'est plus de 200 conseillers, 200 globalement, conseillers. Je suis. Ouais.
D'accord. Alors, justement, sur AXA Bank, donc on est sur le marché des assurances. On est sur une typologie d'assurance qui se destine à quel type de public, si tu peux?
Alors, je t'arrête parce que dans AXA Bank, il y a banque. Donc, en fait, AXA Bank, c'est la banque d'AXA.
D'accord.
Donc, je ne sais pas si je te fais les poupées russes. Le groupe AXA, c'est un groupe mondial. C'est 100 milliards de chiffre d'affaires. Ça va être 6 ou 7 milliards de résultats. Il est dans des dizaines de pays. Ça doit être, je ne dis pas de bêtises, je pense 150 000 collaborateurs ou distributeurs. Et au sein d'AXA, eh bien, le vaisseau amiral, comme on dit, c'est AXA France, puisque tout est parti dans les années 70-80 de l'aventure lancée par Claude Bébéard, hein, qui était une grande figure du capitalisme français on peut dire au siècle dernier, au début du siècle.
Qui était dans les conseils d'administration
de beaucoup de boîtes. Et qui a été quelqu'un d'extraordinaire. Il a cru dans l'humain, il a cru dans l'informatique, puis il a fait beaucoup de croissance externe. Et donc, du coup, AXA France, la partie française d'AXA, ça représente, on va dire, un petit peu moins de 30%, ce qui est très important. Et là, c'est 30 000 personnes qui travaillent. Et le métier d'AXA, c'est évidemment l'assurance. Tout type d'assurance pour tous les clients, avec un modèle extrêmement diversifié, ce qui rend AXA, je dirais, antifragile, pour reprendre l'expression de Taleb. Et depuis le début des années 2000, AXA a une filiale bancaire, donc c'est AXA Bank où je travaille. Et pourquoi les produits bancaires ? Parce qu'en fait, les produits bancaires complètent très bien l'offre d'assurance. C'est un produit, la banque fidélise, notamment grâce au crédit. Et puis, les agents AXA, qui sont des distributeurs de terrain à proximité des clients, eh bien, ils sont bien placés aussi pour anticiper les besoins des clients, les accompagner sur des offres bancaires en complément des offres assurantielles.
Donc, c'est des types de produits bancaires de tout type ? C'est à la fois du crédit, c'est à la fois du...
Oui, la banque au quotidien, ton compte avec une carte bancaire, le crédit et puis aussi l'épargne et ce qu'on appelle l'épargne financière, les produits boursiers. Donc, une offre large pour les particuliers, aussi pour ce qu'on appelle le wealth management, plutôt la gestion de fortune, puisque AXA aussi est très présent via l'assurance vie sur les placements pour une clientèle en gestion
donc
de fortune.
Donc sur une typologie d'offres de services assez large, puisque tu mentionnes à la fois l'assurance vie et puis de l'assurance un peu plus classique pour prévention, etc.
Ah oui, mais AXA,
très varié en termes d'offres.
AXA couvre quasiment tous les métiers de l'assurance, santé, retraite, assurance vie, l'IARD, à savoir auto, habitation, les risques d'entreprise. Et on est extrêmement diversifié. C'est cette diversification qui crée aussi notre solidité, parce que si ça ne va pas bien dans une branche, ça va bien dans une autre. Et donc, c'est équilibré.
Donc, c'est un complément finalement de service par rapport à l'activité traditionnelle et historique sur des produits bancaires. Et donc, j'imagine avec des clients existants ou même des nouveaux clients.
C'est exactement ça. C'est la vocation d'AXA Bank, c'est de fidéliser les clients existants de AXA Assurance en France, mais également, pourquoi pas, d'aller chercher de nouveaux clients, pourquoi pas des clients plus jeunes, et de contribuer ainsi à la croissance d'AXA en France.
Et tu couvres à la fois particuliers et pro, ou priorité les particuliers ?
Non, c'est les particuliers.
D'accord, d'accord. C'est une autre branche qui gère l'aspect entreprise, j'imagine.
C'est-à-dire que AXA est même leader dans l'entreprise, mais actuellement, il n'y a pas d'offre bancaire sur l'entreprise, si ce n'est pour les auto-entrepreneurs à qui on peut proposer des comptes.
Alors, on est sur l'Entertainment Lab, qui est aussi sur le sujet de la relation client, parce que finalement, créer des contenus ou raconter, c'est souvent la relation aussi avec ses clients. Alors, ce qui est intéressant dans ton domaine, c'est que j'ai l'impression... que la relation client aujourd'hui, elle est finalement, tu en as un peu parlé, l'humain reste très important, parce que d'ailleurs on le voit quand on est dans une banque, une agence, le conseiller ou la conseillère, c'est quelqu'un d'important. Et en même temps, il y a tous les nouveaux outils digitaux qui arrivent, tu leur en as parlé, plateformes sécurisées, etc. Donc je voulais avoir ton avis sur le mix, le bon mix des deux, parce que je pense que c'est un challenge pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui.
Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que AXA Bank, on a une offre triple play, puisqu'en fait... et qui s'appuie sur la proximité, sur la relation client. Finalement, c'est une histoire de proximité. Quand tu vois l'histoire de la distribution, c'est toujours comment faire pour que ça soit le plus simple pour les clients. Il y a eu, il y a des siècles, c'était les marchés où tu pouvais, au même endroit, marketplace, retrouver tout ce que tu avais envie d'acheter le dimanche. Je fais court, les grands magasins, c'est tout au même endroit. Faubourg Saint-Antoine, dans la même rue, tous les magasins de meubles sont regroupés. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Et puis aujourd'hui, on a la banque dans sa poche avec son téléphone portable. Finalement, on peut quasiment tout faire. Et là, beaucoup de gens, je pense qu'il y a 30 ou 40% des clients des banques qui regardent, qui consultent tous les jours leur compte en banque. Donc, le premier point
surtout
de contact
des clients. Avec les tensions sur les sous et tout ça.
Oui, et puis ça s'est accéléré probablement avec le confinement, puisqu'il y avait les gens étaient chez eux et ça s'est accéléré. Mais en tout cas, premier point de contact, téléphone portable, qui permet de faire beaucoup d'opérations. Donc, les gens vont se connecter 10, 20 fois par mois. Deuxième contact, c'est si comme je le disais au début, j'arrive pas à faire une opération ou j'ai une incompréhension, une interrogation, j'ai besoin de parler à un expert, j'appelle ou j'envoie un message au service client. Donc ça, c'est mon job. Et là, les gens en moyenne vont le faire 2-3 fois par an. Tu vois, c'est beaucoup plus faible. Dans ces cas-là, comme ils ne le font pas souvent, évidemment qu'ils attendent une réponse d'une qualité supérieure à ce qu'ils pourraient trouver eux-mêmes en cherchant sur Internet. Et puis ensuite, le modèle d'AXA, c'est la relation avec un conseiller de proximité. Et là, AXA, c'est plusieurs milliers d'agents.
Qui t'as sont des points, t'as des points de vente.
Exactement.
Aussi,
donc ce sont les agents généraux. Donc c'est un modèle assez particulier, parce que les agents généraux sont des indépendants, ce sont des chefs d'entreprise, agents exclusifs pour le compte d'AXA, et un certain nombre d'entre eux représentent AXA Bank. Ils ont choisi, en plus d'assurance, de proposer les services d'AXA Bank. Et eux, par rapport aux collaborateurs qu'on peut avoir dans des réseaux bancaires traditionnels, l'agent général, il va rester en moyenne 12 ans dans son agence, puis il ne va pas commencer à 25 ans, mais un peu plus tard, après déjà une première expérience professionnelle ou plusieurs expériences professionnelles. Puis après, il va animer son agence pendant plutôt un certain nombre d'années. Et lui, il est là pour les moments clés. Donc, mon premier crédit, j'ai envie de discuter avec quelqu'un. Peut-être que je pourrais le faire en ligne, mais...
Tu as toujours un référent par ces agences
exactement,
locales.
Exactement. Donc, trois niveaux. Le téléphone dans sa poche. Des conseillers en ligne avec des horaires d'ouverture larges, et puis le conseiller attitré AXA qui est sur place.
D'accord. Et les gens continuent évidemment à revenir malgré le Covid, malgré les visios, etc. Il y a quand même une envie des personnes à un moment de retrouver leur conseiller en physique.
Oui, alors en physique ou aussi en ligne, de plus en plus, les clients envoient des messages ou appellent. Faut pas, et ça, souvent, c'est un contact important. Ils vont le voir une fois, mais après, il y a une relation interpersonnelle qui se crée. Et même si c'est à 3 km de chez toi, tu l'appelles.
Mais c'est vrai que ce sont des personnes, on s'en rend compte tous avec son banquier, ou à quel point ce sont des personnes qui sont importantes dans la relation quotidienne, et que d'avoir une très bonne relation, c'est un énorme plus. C'est parfois plus Joël que AXA Bank ou que LCL ou que Société Générale. Enfin, je veux dire,
c'est probablement
un intuitu personnel très fort.
Moi, je dis toujours, j'avais fait un article il y a 2-3 ans à propos justement du NPS. Et je disais que le NPS, c'est un indicateur très important que la plupart des grandes entreprises utilisent pour mesurer leur satisfaction, tu sais, avec cette fameuse question, est-ce que vous recommanderiez tel service, tel produit, telle entreprise à un ami. Mais en fait, il n'y a peut-être pas la dimension presque émotionnelle. Dans une entreprise comme AXA, la dimension émotionnelle du lien, le lien entre la marque et le client, il est porté par ses agents, alors que dans d'autres domaines, je sais pas, je veux dire Apple, l'émotion c'est le produit lui-même, l'emballage, tu vois.
Il faut leur rendre hommage aussi, c'est des personnes, on le dit pas souvent, mais c'est des gens qui sont quand même sur le terrain, sur des métiers pas toujours faciles aussi, faut le dire, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi c'est en recrutement, j'imagine, c'est un vrai enjeu de recrutement. Qui participe finalement au recrutement de ces conseillers? Désolé, je sors un petit peu du cadre.
C'est bien vu, ça veut dire que AXA, qui est le leader, parce que le réseau des agents AXA est le plus grand réseau d'agents en France, et la partie recrutement des agents, et c'est un vrai savoir-faire pour identifier les bons profils, parce qu'ils sont amenés à rester très longtemps chez AXA. Souvent, c'est aussi pour reprendre des agences existantes. Donc, il y a aussi un sujet de transmission. Un agent qui prend sa retraite, il va être remplacé, et c'est important qu'il soit bien remplacé pour pas qu'une partie de la clientèle parte voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et la formation initiale, donc on a un centre de formation au vert où les agents passent, les futurs agents passent de longues semaines pour se professionnaliser. Et là aussi, je dirais que ça s'est amélioré de manière incrémentale chaque année. Il y a un vrai savoir-faire aussi
sur les valeurs, j'imagine.
Et puis après, donc voilà, recrutement en formation, et puis ensuite accompagnement sur le terrain. Donc c'est tout le travail des inspecteurs, c'est un terme ancien mais qu'on continue d'utiliser, donc des gens qui représentent la compagnie et qui animent les communautés d'agents, et avec une organisation qui est plus régionale pour être proche du terrain.
Donc Raphaël, tu l'as parlé, tu as dit que ton rôle, il était un peu un rôle d'animateur, parce que finalement tu animes cette relation et tu peux continuer à donner envie à toutes ces personnes. C'est les points qui vont être clés, c'est quoi? C'est donc tous les éléments de langage, c'est la relation, c'est le service, c'est aussi que les chiffres soient positifs. C'est un peu tout ça finalement, ton métier.
Oui, c'est tout ça. Alors en fait aussi, ce qu'on pourrait dire, c'est que On parle de relations clients à distance, donc on parle d'un environnement. Ce sont des. On pourrait aussi parler de call center ou de contact center. Mmh. Et donc, être responsable de la relation client dans une banque, c'est être à l'intersection de deux métiers. Mmh. Il y a le métier de la banque avec ses contraintes réglementaires, juridiques, les taux. Voilà, j'ouvre un compte. Quelles sont
l'expertise technique.
L'expertise technique, mais mes métiers bancaires, un compte, je peux faire un virement, je ne peux pas le faire. Je peux augmenter le plafond de la carte bancaire, je ne peux pas le faire. Donc, premier métier. Et le deuxième métier, c'est le métier industriel du contact center et qui est une industrie ancienne. Et très technique parce que l'histoire des contact centers, je pense que les premiers, on pourrait dire que c'est probablement les opérateurs téléphoniques, mais des années 1900, enfin quand le téléphone est né, où tu sais, tu avais des gens qui mettaient
séries là-dessus, oui, les demoiselles du téléphone.
Les demoiselles, et d'ailleurs, on disait c'était effectivement plutôt des femmes parce que je crois qu'elles résistaient mieux au stress que les hommes
50's,
pour faire le.
Souvent les années 50
voilà, avec tu sais, le fil avec les deux connecteurs là, pour mettre les personnes en relation. Donc, cette industrie, elle s'est professionnalisée. Et puis aujourd'hui, elle est très tech puisque on peut mesurer beaucoup de choses. Donc c'est finalement c'est
tout est enregistré, j'imagine. Il y a du feedback.
Ah oui, on enregistre, etc. Alors,
on analyse
évidemment dans le respect tout ce qui est confidentialité, etc.
Mais en tout cas,
effectivement, contrairement à ce qu'on peut avoir dans des réseaux physiques, un conseiller, oui, c'est vrai que on va savoir qu'il a pris tant d'appels, que la durée moyenne des appels est de temps, qu'on a perdu peut-être des appels à 9h du matin,
à analyser, etc. Quoi.
Et donc, c'est intéressant d'analyser. Et puis, c'est clé. Donc, beaucoup de data et aussi l'importance de prendre du recul et d'analyser ces chiffres. Donc, la banque et ce métier des contact centers. Je dis bien, c'est bien une famille professionnelle puisque, si tu veux, quelqu'un, que tu sois chez les grands opérateurs, tu sais, les téléperformances, WebHelp, j'en passe, c'est des meilleurs, Majorel, etc. Donc, c'est une vraie profession avec des dizaines de milliers de collaborateurs. Et toutes les personnes qui travaillent dans l'industrie de la relation client à distance parlent le même langage, taux de décroché, QS, durée moyenne de traitement, etc. Donc, c'est une industrie qui est très, très structurée. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que qui est né plutôt aux États-Unis, ce qui fait que les meilleurs bouquins sont probablement des bouquins en anglais. Il y en a eu quelques-uns en français, mais pas tant que ça.
D'accord.
Voilà, donc intersection des deux. Donc ensuite, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on regarde? En fait, c'est un mix entre maîtriser les coûts, donc je veux dire, quelle est trouver la meilleure adéquation entre les besoins, donc les flux qui vont se présenter. C'est aussi, je dois le dire, un métier de flux chaud, c'est pas de flux froid. C'est-à-dire que le flux chaud, c'est comme le flux chaud, c'est McDonald's. Tout d'un coup, il y a plein de gens qui arrivent au guichet, c'est du flux chaud. Le flux froid, c'est plus, tu as un stock à gérer, de demandes écrites, et là, tu as un peu plus de temps pour le faire. Donc, du flux chaud, donc en face du flux, je dois mettre des ressources. Comment je fais la meilleure allocation de mes ressources à heure par heure? Donc, la qualité, et là, tu vois, j'ai un peu distressé, mais enfin, c'était effectivement ta remarque, oui, effectivement, la qualité qui peut se suivre de plusieurs façons. C'est à la fois effectivement la qualité du discours, donc on fait des écoutes aléatoires ou systématiques des conseillers, des jeunes conseillers, pour voir si ça correspond bien à nos objectifs et aux standards qu'on veut avoir. Respect des process aussi, parce que tu ne manipules plus des outils. Donc voilà, si je dis à un client qu'on va faire telle ou telle opération, est-ce qu'on l'a bien effectué? Mais on peut le faire aussi avec des outils de mesure tels que ce qu'on appelait les instant customer feedback, à savoir t'envoies après un contact tout de suite une enquête à chaud par mail, et le client va répondre à 2, 3, 4 questions. Et ça permet là aussi d'avoir un retour et pourquoi pas de faire un feedback aux conseillers concernés, ou des études plus ponctuelles à des moments clés, par exemple lors d'un traitement opération ou la réalisation d'un crédit. Okay. Donc on a pas mal de batteries de mesures, tout ça pour mesurer la qualité. Comme on est dans la banque, tout ça, ça doit se faire dans le respect de la réglementation, etc. Donc il y a pas mal une notion de contrôle. Et puis enfin, un contact, ça peut être aussi l'occasion de faire le point et de faire, pourquoi pas, un rebond commercial. Et donc, notamment, on organise des challenges commerciaux assez classiques pour faire le mois du rebond sur du crédit consommation ou pour monter en gamme sur les cartes bancaires.
CRM, c'est aussi dans ton scope ou c'est plus en connex?
Non, c'est pas dans mon scope. On s'appuie sur des outils robustes de CRM. C'est plutôt, on va dire, côté informatique.
Aujourd'hui, ça arrive la demande autant par du téléphone que par la plateforme sécurisée, tu dirais?
Non. Je dirais que pour, on va dire, pour 5 appels, il va y avoir un contact écrit.
D'accord. Donc l'appel reste quelque chose de tout à fait important.
Oui, c'est un média chaud. Mais tout ça rassure. Oui, mais sachant que c'est beaucoup plus faible que le premier canal qui est le web, et encore plus que le web maintenant, l'appli. L'appli téléchargée par les clients, ça devient le premier canal.
Donc tu disais 5 appels, un contenu.
Oui, c'est ça. Et un contact écrit.
Un contact écrit, mais par l'appli, c'est plus fort que l'appel aujourd'hui.
Oui, ça va être 10 fois plus.
10 fois plus l'appli. Mmh. Non, très intéressant. Et alors justement, moi, ça m'intéresse aussi le sujet un peu IA.
Même 20 fois plus peut-être.
Comment tu vois le sujet IA? Parce que tu l'as un peu dit, quand on gère un moment un flux de demande très important, qu'il y a de l'humain, etc., où est-ce que l'IA peut aujourd'hui, l'intelligence artificielle, faire gagner du temps, être plus productif, plus efficace? Là, je me mets un petit peu plus en prospective. Comment tu vois le sujet IA au service de la relation client, peut-être alors aujourd'hui et peut-être demain,
Oui, alors
je te lance sur un sujet plus prospectif.
Oui, il y a plusieurs dimensions possibles. Tu peux avoir, par exemple, on parlait, alors c'est un peu moins à la mode comme expression, mais il y a 3-4 ans, on parlait du conseiller augmenté. Donc, l'idée, c'est de dire, je suis conseiller dans un contact center ou d'ailleurs dans une agence et j'ai des outils qui me permettent finalement d'analyser plus rapidement ou de me donner des analyses. Et typiquement, on pourrait très bien dire, voilà, en fonction du profil, parce que le client a tel produit, qu'il a plus de 50 ans, etc., eh bien, on pourrait faire apparaître une pop-up, d'ailleurs aussi bien sur le site internet pour le client lui-même ou pour le conseiller, indiquant proposez-moi tel produit. Et puis voilà, donc on va voir, c'est pourquoi
ça, c'est
pas
de la personnalisation,
voilà, donc là tu peux mettre une couche d'intelligence artificielle et puis après tu peux faire de ça peut être auto-apprenant. Si le conseiller répond, le client pas intéressé, ça peut peut-être dire que à force, au moins faut je vais avoir les oui et les non pour dire est-ce que le client est intéressé ou pas, et ça va me permettre d'apprendre et de mieux cibler progressivement les clients. Donc voilà, c'est un exemple. Alors un autre exemple, ça va être tout ce qui peut être bot, c'est-à-dire qu'on peut alors c'est plus vrai pour moi pour tout ce qui est, si tu veux, client, enfin pour tout ce qui est question générale, mais effectivement avec les bots, donc ça veut dire soit l'analyse de la compréhension du texte, soit de la voix, mais qui passe par du speech to text, est capable de proposer des réponses et qui vont être de plus en plus précises avec des systèmes qui auto-apprenants, si je puis dire. Et puis sur le plan analytique aussi, ça peut être puissant. On parle effectivement, on parlait des écoutes aléatoires, mais tu réécoutes pas 50 000 écoutes du mois. Donc on le fait de manière, on va écouter X fois un conseiller pour l'aider d'ailleurs et le faire progresser. Là, il y a des systèmes aujourd'hui qui sont matures et qui permettent d'analyser toutes les conversations. Ça part par une identification de mots-clés et après, tu peux, pourquoi pas, identifier des conversations où il y aurait eu des gros mots, identifier s'il y a du mécontentement, identifier s'il y a du rebond commercial. On peut aller très très loin, mais tout ça doit être fait évidemment aussi de manière éthique et déontologique vis-à-vis, la protection des libertés. Nous, on a déjà regardé ces outils, mais on a eu fort à faire ces dernières années en migration informatique, etc. Donc, on n'a pas encore fait un POC, par exemple, pour tester ce type d'outils.
Il faut être vigilant aussi.
Mais en tout cas, il y a des gens qui les utilisent et il y a aujourd'hui des solutions qui tournent chez certains.
Tu crois qu'on arrivera un jour aux IA conseillers vraiment vocaux et qui ne sont pas forcément de l'humain et...
par exemple, tout ce qui est. Pour parler d'un sujet dont tout le monde parle là, depuis quelques semaines, là, c'est OpenAI avec GPT. Là,
on m'a parlé de ce sujet.
Je
ne
sais pas si tu as essayé, mais effectivement, c'est plutôt bluffant. Tu peux demander, de préparer un discours pour fêter la nouvelle année. Tu peux demander d'écrire un poème sur la politique. à la manière de Baudelaire sur je ne sais pas quel sujet. Enfin, tu peux demander, il génère du code, de préparer une lettre de réclamation, donc aussi de répondre à une lettre de réclamation. Donc, ça va très, très loin. Donc, par rapport à ça, alors on dit, oh, c'est terrible. Donc, oui, c'est vrai que ça pourrait, en théorie, remettre en jeu des métiers où il y a une valeur ajoutée intellectuelle, mais en même temps, voilà, moi je suis parti de ceux qui pensent
qui croient en l'être humain.
Oui, non, mais je pense aussi qu'à toute, enfin, le téléphone portable, effectivement, tu peux dire ah bah c'est dangereux si la personne conduit avec le téléphone au volant. Oui, c'est dangereux. Maintenant, si la personne un accident se retrouve au fond d'un ravin, ça permettra peut-être au conducteur d'appeler les secours. Donc en fait, voilà, y a dans le progrès, il y a toujours la face positive, optimiste, et puis une phase négative.
On en parlait ce matin parce qu'on
voilà, avait... certains disent déjà, mais ça y est, il n'y aura plus de devoirs à la maison, puisque les élèves vont pouvoir s'amuser à préparer leurs devoirs de cette manière. Bon, c'est vrai que ça remet en cause plein de choses. Maintenant, tu peux dire, ça devient une nouvelle couche, et en fait, l'intelligence, elle va être encore au-dessus en maîtrisant ces outils. Donc,
je pense qu'on verra, mais c'est vrai qu'il y a aussi plein de gens aujourd'hui qui ne croient pas dans un monde à la Big Brother ou qui va aussi isoler les gens. C'est vrai que bon, métaverse, ça peut être intéressant, mais ça peut aussi être un risque d'isolement fort pour la société. Les gens, ils ont aussi besoin de contact après toute cette période Covid et d'humains.
Oui.
Et on en parlait aussi.
Là-dessus, il y a un très bon roman, donc j'ai oublié le nom.
Science-fiction.
Le bouquin de Verse qui s'appelle Les liens artificiels.
D'accord.
Où c'est un. Le héros est un peu un jeune pianiste raté qui vit un peu tout seul, et puis il y a un nouveau jeu sur le métaverse. Il se crée un personnage virtuel qui devient une star du métaverse.
Tu l'as lu, le livre ?
Oui, je le conseille au lecteur, parce que c'est un bouquin effectivement de science-fiction, mais en même temps qui prend tout ce qu'on voit, s'enrichit des signaux faibles qu'on peut voir, et de technos qui sont là déjà, avec tous les Fortnite et tous ces jeux-là, pour en faire une vraie histoire,
et avec un côté poétique. J'imagine, il y avait un côté
franchement, c'est un bon bouquin. Et puis
ça marche, c'est un sujet qui est intéressant et qui est dans l'air
voilà
du temps.
Et donc pour dire non, après sur les sujets de protection des données, ou enfin, donc là-dessus, pareil, il y a un bouquin qui est bien d'une Caroline Fayek, je conseille sur c'est la nouvelle guerre, une guerre digitale, et sur le Web 3, où tu vois que le Web 3, par exemple, donc qui s'appuie sur la blockchain, peut offrir, en théorie, des possibilités pour finalement que le créateur de contenu soit en quelque part reste propriétaire de son contenu. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je crée mon contenu que je mets sur LinkedIn ou sur Facebook, il ne m'appartient plus. Enfin, foutons-là. D'ailleurs, Facebook peut très bien décider de d'arrêter, etc. Donc, je ne serai pas rémunéré pour ça. Donc, en fait, si par la pub, là, il y a des nouveaux modèles émergents. Ça va être intéressant de voir ce qu'il en restera dans quelques années. En tout cas, au niveau techno, ça devient mature et on verra ce qui se passe.
Alors, Raphaël, on arrive dans la dernière partie du podcast. Moi, j'ai une petite question. Je sais qu'il y a un sujet qui te tient à cœur, qui est tout l'aspect management, mais aussi divertissement. Je crois que tu as des manières un peu inédites pour aussi impliquer tes équipes. C'est vrai que toute la crise Covid, les années qu'on a traversées, ça a été un challenge pour pas mal pour les entreprises. Je voulais avoir ton regard là-dessus, ces nouvelles manières de management, et peut-être d'amener un petit peu d'entertainment là-dedans. Et puis, et puis je crois que tu as aussi une brique un peu influence digitale. Tu aimes bien un peu créer un peu du contenu aussi à ton niveau.
J'essaye modestement. Alors, sur la première question, oui, c'est ça. Le management, c'est un art. Donc je prétends pas être un artiste du management. Mais en tout cas, j'essaye de faire des choses aussi qui soient en résonance avec... je dirais aussi le quotidien des conseillers en dehors du boulot, quoi.
Tu trouves que c'est très important.
Et il y a un truc incroyable, en tout cas c'est partout, mais je trouve que c'est particulièrement vrai chez AXA et chez AXA Bank, c'est que il y a plein de talents cachés, quoi. Il y a des gens qui ont plein de talents, et notamment des talents
forcément.
Voilà. Donc effectivement, ça fait des années qu'on s'appuie là-dessus. Et tu sais, dans les entreprises, souvent les équipes partent en séminaire sur la journée. C'est la journée de séminaire de telle équipe. Donc ils sont partis, faire en forêt, faire du canoë ou faire...
On avait fait l'Aveyron.
Voilà, l'Aveyron. Bon. Et en fait, moi, pour les équipes qui sont au téléphone, c'est compliqué de dire on ferme toute la journée, parce que les clients, eux, ils vont pas attendre le lendemain.
Ah, on refait. T'es sur le... T'as combien, la 30?
Raphaël, on parlait des... C'est bon là ? Excuse-moi, on a un petit bug. Mm-hmm. On est à combien, 30 ?
On est à 28.
28. Raphaël, on évoque l'aspect management et aussi l'aspect un peu team building et donner envie aux équipes. Donc je crois que tu voulais un peu en parler. Non, je refais, pardon, c'était pas bon. C'était quoi l'intro ? Je vais la refaire. On était sur le... Attends, on a parlé de l'Aveyron. Tu m'as dit les équipes... Ah oui, tu disais qu'ils faisaient des séminaires d'une journée.
Oui, c'est ça. Et en fait...
Attends, je te refais l'intro. Ouais. Raphaël, je crois qu'il y a un sujet qui te tient à cœur, c'est tout ce qui est aussi management de proximité. Tout ça a dû beaucoup changer depuis le Covid. Et voilà, je crois que le sujet, tout ça, t'intéresse par rapport au séminaire notamment.
Oui, en fait, motiver les équipes, les réunir, ça fait partie, je pense, des fondamentaux du management. Il se trouve que le service client dont je m'occupe, je ne peux pas les envoyer, les prendre et les amener à un séminaire toute la journée parce que voilà, on est en service continu, enfin on doit sur une continuité de service. Donc du coup, depuis des années, on fait une soirée annuelle. Donc on pourrait se dire, une soirée annuelle, on réunit des gens, on fait un cocktail dînatoire et puis on danse. Voilà. Et en fait, depuis des années, moi j'ai plutôt cherché à finalement en faire un événement... Et un événement qui soit mémorable.
Un peu plus inédit.
Quoi. Mémorable aussi, je me dis, voilà, si les gens dans 10 ans se retrouvent, qui se disent, tu te rappelles la soirée de la direction relations clients d'AXA Bank, c'était incroyable. Et donc, on essaie toujours dans ces soirées de faire un mix entre la mise en avant des talents. Et des talents, on en a beaucoup. On a des sportifs, on a des chanteurs, on a des gens qui ont un potentiel comique. Une phase, alors entertainment, soir, etc., bien manger, bien boire.
Talent de l'humour, t'aimes bien, je crois.
Et oui, je vais t'en dire quelques mots, parce qu'effectivement, ça a plutôt été les thématiques des dernières années. Et puis aussi, une partie émotionnelle, et ça va te parler, où en fait, on essaie aussi de reconnaître une fois par an les talents qui sont exercés au boulot. Donc en fait, c'est de faire des awards, en fait. En mode César avec les trois nominés sont, marrant, et on ouvre les enveloppes. Et donc... l'humour a été une thématique, c'est une thématique qui marche bien. Donc il y a quelques années, on avait privatisé le Jamel Comedy Club. Mm-hmm. Et non seulement il y avait un humoriste du Jamel Comedy Club qui était venu faire un petit stand-up de 20 minutes, mais on avait eu aussi des sketchs réalisés par des collaborateurs très inspirés. Il y a 2 ans, pendant le confinement, alors là on était dans le studio AXA, parce que AXA a un studio, comme ici on a un studio, il y a un studio, mais plateau télé, à la disposition des directions. Et comme ça devait être le deuxième confinement, je m'étais dit, comment amener un peu d'humour et quelque chose de mémorable à des collaborateurs qui sont chez eux, peut-être dans leur cuisine, dans leur chambre, dans leur bureau, et créer une surprise. Effectivement, l'humoriste Boudère s'était prêté au jeu, lui-même était d'ailleurs chez lui. Et donc, on l'avait fait passer. J'avais dit que le nouveau directeur de la stratégie d'AXA allait intervenir pour remettre un prix. Et c'était lui qui était apparu. On s'était bien marré. Et il y a quelques semaines, là, en novembre, on a amené toute l'équipe, une centaine de personnes, au spectacle du gars qui est probablement, je crois, le plus bankable en ce moment, ou un des... Il est dans le top 3 sur Fnac.com là, pour les réservations. C'est Redouane Bouguerraba, qui est un artiste d'origine marseillaise. Okay. Et il avait été prévenu, donc je m'en suis pris un petit peu pour... J'en ai pris un petit peu pour ma poire. Il a vite noté que j'avais une calvitie. Il m'a demandé, il m'a demandé si je dormais sur la tête quand j'étais enfant. Mais
t'as pris ton petit scud.
J'ai pris cher, un peu cher.
Mais ça permet.
Mais en tout cas,
aussi,
non, mais franchement, rigoler ensemble,
oui,
y a
ça
rien
fait
de
du
tel.
Bien.
Moi,
ça...
je me rappelle encore de rigolades au lycée, quoi. Donc, je pense que des bonnes rigolades à plusieurs, on s'en souvient.
Ça soude dans les boîtes aussi, et puis ça permet.
Donc, on a fait ça, puis on avait enchaîné effectivement sur cette cérémonie. Il faudrait pratiquement, je vais pas dire déposer le brevet, mais de Ward, où en fait, là aussi, c'est du bottom-up. C'est en fait, c'est pas moi qui décide que le manager de l'année, c'est un tel, parce que j'aime bien sa tête. Le manager de l'année, c'est un vote du public des conseillers, donc c'est assez fort. Les conseillers qui désignent le conseiller de l'année. On a aussi la révélation de l'année, un jeune conseiller ou une jeune conseillère. Et voilà, et donc c'est un vote qui a du poids. Et puis, j'invite des collègues du comité de direction et la directrice générale à venir remettre les prix. Et donc, je peux te dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ambiance parce qu'il y a le suspense de qui va gagner, etc. Donc, voilà, faut pas non plus, tout ça reste modeste et bon enfant. Mais je trouve que ça vient symboliser une année l'humain et puis une année forte aussi en moment. Difficile, plus facile, mais on a tous trimé ensemble.
Bah ça, c'est intéressant pour tous les auditeurs ou managers qui vont écouter ce podcast de ramener un peu de créativité, d'entertainment et de piquant. C'est parfois pas facile, c'est vrai, c'est dans des rythmes.
Oui, le mot, parce que toi, tu es sur l'entertainment, c'est finalement une façon d'introduire de l'entertainment. Alors, j'ai déjà vu aussi AXA, on l'a déjà fait AXA Bank, de demander aux collaborateurs eux-mêmes de faire des vidéos. On a déjà fait des trucs géniaux. Il y avait une vidéo en mode bref. Le thème, c'était la reconnaissance au travail. Et le type, qui était un informaticien, le début de la vidéo, il arrivait au portique, enfin à l'entrée d'AXA Bank avec son badge et qui ne marchait pas. Il disait, déjà, je suis pas reconnu. Hein, c'est sur la reconnaissance. En fait, il y a des trucs vraiment. J'ai vu des choses fortes parce que les gens, finalement, avec les moyens du bord, il y a un bon téléphone portable et des logiciels de montage. Je suis étonné, si tu veux, de voir du. Je vais pas dire le professionnalisme, en tout cas c'est de bons amateurs et c'est plutôt bluffant d'utiliser ces outils, la vidéo auquel évidemment, toi t'es un pro mais on arrive à faire des choses très très bien.
Il y a beaucoup de gens qui ont des talents cachés et puis surtout ce qui est intéressant ce que tu dis, ça brise aussi des tabous sur la parole en entreprise, ça peut aussi ramener la décomplexe un peu aussi sur
sortir du
sujets.
Déni, servir d'exutoire, ça voilà. C'est utile.
Très intéressant Raphaël. Et la toute dernière partie sur l'aspect création de contenu, je crois que tu aimes bien ce sujet de l'influence digital. Tu penses qu'aujourd'hui, quand on est manager, ça devient de plus en plus important, ce côté un peu personal branding, où il faut rester aussi authentique, j'imagine. Donc comment
je pense que on est dans un monde de communication aujourd'hui. Et la communication passe notamment par, et même beaucoup, par les médias sociaux, puisque par exemple pour les jeunes, c'est le canal d'information numéro un, bien devant la télé, la radio, etc. Donc tout leader, manager, évidemment, doit soigner un minimum sa communication. Après, je dis en management ou en sport, on dit toujours, tu as des points forts, tu as des points faibles. Donc, fais-toi plaisir, travaille tes points forts. Maintenant, les points faibles, si ça devient des handicaps, il faut faire attention. Un manager qui ferait zéro communication, qui ne serait pas présent sur LinkedIn, tu vois, ou qui n'aurait pas de photos, c'est quand même un petit peu gênant. Je dis que c'est un petit peu comme les ceintures au judo, tu vois, ceinture blanche, c'est peut-être simplement voir ta fille sur LinkedIn, mais déjà, si de temps en temps, tu vas dire, en ce moment, je recrute, et tu publies une annonce, et tu aides la DRH à aller chercher des collaborateurs, tu montes ceinture verte, tu vois, ou tu communiques, tu lances un produit, etc. Puis après, tu peux monter encore en grade, donc je dirais que les grands dirigeants de boîte, en fait, ils sont ceinture noire, et en plus, ils ont même des équipes qui les aident à gérer ça. Alors moi, je pas si je suis ceinture rouge ou autre, mais j'essaye de, je dirais, en plus de produire, quand j'ai un peu d'inspiration du contenu, comme je te disais, je suis expérimenté, donc quand je peux, j'aime bien écrire.
Quoi tes thèmes clés, toi, un peu tes
oui, non, mais mes thèmes, mes thèmes clés, c'est des thèmes autour de la relation client, donc j'ai fait un article il n'y a pas très longtemps sur adopter l'humour stand-up en management, on vient d'en parler, j'ai fait un article sur les appels sortants, le management, donc j'avais fait un article il y a un an et demi sur un site qui s'appelle Contrepoint, j'avais appelé ça Management Summer Session, qui était plutôt sur l'approche bottom-up, tu vois, permettre aux gens de s'exprimer. Tu fais une table ronde de conseillers, tout le monde s'exprime, ou même un déjeuner, coup de gueule, coup de cœur, chacun le dit, ça brise la glace, et puis ça peut faire ressortir des choses qui marchent, aussi des choses qui ne marchent pas. Et puis plus récemment, là je viens de faire un papier qui est un peu plus, j'appelais ça la sharp attitude, pour dire aujourd'hui aussi, il y a beaucoup d'articles, et tant mieux, sur les sujets de bienveillance, d'empathie, etc. Mais en même temps, dans cet article, j'ai aussi le business devient difficile, donc il faut aussi avoir des réflexes. Et il y a des moments, c'est un peu chirurgical, suivre les bons indicateurs, prendre des décisions parfois compliquées. Mais voilà, donc je suis un peu plus sur ce sujet-là en ce début d'année qui est compliqué pour tout le monde. Et puis parfois un peu d'économie, mais
intéressant, top. Toute dernière partie, alors Raphaël, moi j'ai une question que je pose à tous les invités, c'est l'aspect des créations qui t'ont marqué. Donc ça peut être un film, une série, ça peut être de la musique, Tu nous as cité un livre tout à l'heure, mais est-ce que voilà deux trois œuvres qui ont pu te marquer, voilà, récentes enfin, de tout temps.
Sinon, je veux dire le, oui. Voilà, je veux dire les trois mousquetaires, le lieutenant Blueberry, tu vois, Charlier, ça, d'accord. Voilà, mais ça fait
BD,
ça fait,
la BD alors.
La BD, donc ça c'est daté, le dessinateur qui m'a Michel Vaillant, alors, je dessine Michel toujours, Vaillant. Tu vois. Je fais
t'es un fan de Michel Vaillant. J'adorais Michel Vaillant.
Ouais, tu vois, je fais du parfois en réunion du meeting art parce que t'as le street art. Donc parfois, ça m'arrive de crayonner quand je réfléchis.
Avec le caïd de Francorchamps. Tu te souviens de
c'est ça. Titres non, de mais, Michel mais Vaillant. Non, mais plus récemment, bah, je sais pas quoi te dire. Moi, sur alors, j'écoute en ce moment, je me suis aperçu que le chanteur aime. Alors, je suis pas un super fan de sa voix, mais c'est un bon musicien. Mais en fait, là, depuis quelques mois, il tourne où il a fait un disque avec. Anne-Gaëlle Dorsey ou Gaëlle Anne Dorsey qui était quand même la bassiste de David Bowie hein, et voilà et qui
voilà, l'accompagne. Voilà, un bon entertainer. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller sur ses concerts.
Non,
j'ai pas lui... vu.
Non, enfin, voilà. Donc en fait, je trouve qu'il y a une reprise de À toi, une chanson de Joe Dassin qui est plutôt bien. Enfin, ils chantent tous les deux, donc je trouve que c'est très sympa. Okay. Et puis
En ciné ou en série?
En ciné, moi non. Alors série zéro série, donc je suis.
Ah bon oui. T'as pas les séries?
En fait, non mais c'est voilà.
T'as
ça,
pas le temps.
Va falloir couper au monde. Non mais je me suis pas lancé là-dedans, donc je suis resté. Non, bah moi, je suis resté compteur bloqué sur Amicalement Vôtre.
Là tu vas faire rire les
voilà,
auditeurs.
Voilà, donc ça fait pas. Ça fait un peu masculiniste.
Au moins t'as pas
dit
Star Trek.
Et ou Sex in the City, là, bon. Cette série qui était assez sympa, mais ah ça oui, date des années 2000, hein, ça a oui. plus de 20 ans.
Le même
20
créateur que Emily in Paris, d'ailleurs. Darren Star.
Ok. Et mais alors tout ce qui est Netflix ou ça zéro mais mes fils
t'es pas rentré là-dedans quoi
non, tu t'es pas rentré
bien.
Mais
bah, c'est bien et alors cinéma
et donc
plus,
du coup non mais bah, cinéma qu'est-ce que j'ai vu bah, je
Avatar
bah, j'ai trouvé non Avatar je n'irai pas le voir ça m'emmerde
c'est plus
non j'ai vu le parfum vert là avec Kim Bernard qui joue très bien Jean Dujardin c'est pas très réaliste mais il y a un côté Tintin c'est plutôt sympathique avec une pointe d'humour qui est bien et puis plus les Banshees là très beau paysage mais moyen. Et puis, ah si, la conspiration du Caire, là, oui. Ça c'est remarquable. Hein,
oui,
c'est,
un très bon thriller.
Oui, qui a eu, je crois, le prix du scénario à Cannes.
Film égyptien.
Donc,
donc très pointu, c'est plus cinéma, auteur, des bons films français et des bons films d'auteur. Ouais, t'as pas vu Triangle of Sadness, le film qui a la Palme d'Or.
Non,
je te recommande, qui est un film coup de poing. Toute dernière question, Raphaël, c'est le conseil que tu donnes à un ou une jeune qui se lancerait aujourd'hui dans le métier de la relation client, chez AXA Bank ou ailleurs d'ailleurs, de ce que toi, ton expérience aujourd'hui en 2023.
Je dirais que c'est un métier, c'est un peu peut-être comme la grande distribution, parce que c'est des métiers, effectivement, comme je te disais, qui avaient une dimension industrielle, où tu es quand même monitoré, suivi. Mm. Mais je pense qu'il faut se dire que c'est une façon de faire ses gammes. C'est que
une bonne école quoi.
Je veux dire en musique même les musiciens les plus créatifs à un moment donné ils ont fait des gammes quoi. Alors, peut-être pas certains jazzmen qui sont vraiment autodidactes mais faire ses gammes ou un peintre bah il va faire les beaux-arts enfin Picasso tu vois ses tableaux quand il était précoce mais à 15-16 ans finalement c'était classique il apprenait il recopiait quoi donc c'est faire des gammes donc de rentrer comme conseiller sur un plateau de service client c'est faire ses gammes mais pas dans la relation client moi c'est incroyable le nombre de conseillers qui passent qui arrivent à la banque on est le vivier de la banque en fait ils arrivent au service client mais après tu les retrouves 3 ans plus tard qui dans un autre service peut-être ou qui exige plus d'expertise qui au marketing ou dans d'autres services et donc ou qui tout simplement montent les échelons et deviennent managers et ont la satisfaction après se réalisent en prenant des responsabilités. Donc je pense que c'est se dire voilà, c'est un métier effectivement au départ qui attire peut-être moins que d'être assistant de communication dans une boîte de prod, ça fait peut-être moins prestigieux, mais je pense que sur le long terme, si
ça
on aime le métier de la banque, c'est une bonne école et qui peut déboucher sur beaucoup de choses et puis où on apprend aussi à bosser une fois de plus, il y a des indicateurs de suivi, c'est rigoureux. Et donc, c'est formateur.
Le sens du client, on l'a ou on l'a pas, ou bien on peut progresser dedans, toi. Toute personne peut progresser. Ou est-ce qu'il faut un minimum d'innés pour aussi avoir ce sens et ce service
client? Alors, j'avais lu un papier qui était dans la Harvard Business Review qui était intéressant, qui disait finalement, avant, tu vois, on voulait recruter des gens dans les services clients qui soient, on va dire, polis, ah, je vous comprends, je me mets à votre place. Enfin, des gens un peu dans la... dans la compassion. Et oui. Aujourd'hui, je pense qu'il est important, c'est être finalement dans l'efficacité. Quand quelqu'un appelle, ce qu'il attend, c'est une solution. Donc finalement, attendez, monsieur, je vais...
Système D, quoi.
Oui. Oui, en tout cas, voilà. Donc, j'ai envie de dire...
Je charge votre solution.
Ça veut dire, voilà, ça veut dire que dans le profil des gens, peut-être que quelqu'un qui s'est organisé son propre voyage en Inde, avec les étapes, etc., avec le sac à dos, et ben, c'est peut-être quelqu'un qui va être bon pour apporter des solutions. Voilà, donc...
Non, j'aime bien ta réponse, très intéressante. Très franche. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël. C'était un plaisir de t'avoir avec
plaisir
nous
partagé.
Pour le podcast. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.